Il est 22h, très belle soirée sur Europe 1. Tout de suite, le journal avec Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir à tous. Voici les titres de votre journal. Indignation à Landivisiau dans le Finistère. Après la découverte de tags sur la façade de la gendarmerie, suicidez-vous, pouvait-on notamment lire. Travailler plus pour financer la dépendance. Oui, mais comment? Emmanuel Macron s'apprête à trancher. Ce sera l'un des enjeux de son intervention de jeudi. Un Français parmi les victimes des attentats au Sri Lanka. Un bain de sang imputé à un mouvement islamiste local. Mais les autorités cherchent à déterminer les éventuels connexions internationales. L'Ukraine a depuis hier un nouveau président, mais que pèse Volodymyr Zelensky face à l'ogre Poutine? Dans ce journal également, la pollution aux particules fines qui persiste, en particulier dans le nord, le Pas-de-Calais, la Normandie, alerte rouge. Du côté de la météo, Elena Morna nous annonce deux zones instables demain. La première sur le sud-est avec des pluies soutenues et de la neige, même autour de 2000 mètres. La deuxième sur l'Aquitaine avec des averses orageuses et un risque de grêle l'après-midi. Orages qui vont progressivement gagner le nord-ouest et le centre du pays. Il fera beau quand même au nord de la Seine et jusqu'en Alsace. Profitez-en. Prévision météo complète d'Elena à la fin de ce journal. Mbappé supersonique, plus rapide qu'Usain Bolt hier et plus fort que Jean-Pierre Papin en termes de nombre de buts. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir le directeur général de Nexity, Frédéric Verdaven. Nexity, l'un des plus gros syndics de France qui peuvent être aussi les acteurs, vous le verrez, de la rénovation énergétique.
Europe 1.
Après les appels au suicide adressés aux policiers et entendus dans la manifestation parisienne samedi dernier, cette fois ce sont donc des tags appelant là aussi les forces de l'ordre au suicide qui ont été découverts aujourd'hui sur la façade de la gendarmerie de Landivisiau dans le Finistère. On peut y lire notamment « Flic suicidé à moitié pardonné », des faits d'une extrême gravité, dit le ministre de l'Intérieur. La maire de la ville, Laurence Claisse, est elle aussi particulièrement choquée.
Ce sont les gendarmes qui m'ont prévenu. C'était marqué « Flic suicidé ». « Suicidez à moitié, pardonnez, suicidez-vous. » C'est inadmissible. Je ne l'admets pas du tout. Et la réaction des Landivisiens quand ils se promenaient à Landivisiau et qu'ils passaient, puisque évidemment moi je demandais tout de suite à mes services techniques de venir enlever ces insanités, les gens étaient écœurés en disant « c'est inadmissible, il ne faut pas laisser faire ça ». Moi je suis horrifié de voir ça, horrifié. Là où est la gendarmerie, c'est quand même une rue qui est très passante, hein, c'est l'entrée de ville de Landivisiau. Donc c'est une rue qui était éclairée, mais bon, on n'a rien entendu, rien vu. J'espère qu'on va trouver très vite les responsables et qu'ils paieront pour ce qu'ils ont fait.
La maire de Landivisiau, Laurence Claisse, jointe pour Europe 1 par Marion Jorte. Le journaliste indépendant Gaspard Gland s'est interpellé samedi à Paris alors qu'il couvrait la manifestation des Gilets jaunes et sorti tout à l'heure de garde à vue. Lors de cette manifestation, on le voit notamment faire un doigt d'honneur aux forces de l'ordre. Le procureur a requis l'interdiction de paraître à Paris tous les samedis jusqu'à son jugement qui est prévu le 18 octobre. Le juge a suivi cette réquisition, mais l'avocat de Gaspard Gland va contester cette décision, estimant qu'elle lui nuit et qu'elle l'empêche de travailler. On apprend qu'un sapeur-pompier du Val-d'Oise, soupçonné de faire partie des Black Blocs, a été interpellé samedi à Paris. Il avait en sa possession des cocktails Molotov et des feux d'artifice. Il a été placé en garde à vue et pourrait être évincé des pompiers si les faits étaient confirmés. Travailler plus pour financer la dépendance, oui, mais comment? Jeudi, Emmanuel Macron devrait préciser sa pensée lors de sa conférence de presse. On sait que cette question délicate du temps de travail divise les Français. Pourtant, la nécessité de travailler davantage fait partie des annonces attendues et qui ont été reportées à Adrien Beck en raison de l'incendie de Notre-Dame de Paris.
Oui, ce sont les mots d'Emmanuel Macron pour remplir deux objectifs, baisse des impôts et financement de la dépendance. On connaît donc l'intention, mais à cause de l'incendie de Notre-Dame, le chef de l'État n'a pas pu préciser ce qu'il voulait dire. De quoi laisser place aux spéculations, car le sujet est politiquement inflammable. Que veut dire travailler davantage? Faut-il par exemple supprimer un nouveau jour férié? C'est ce que propose La République En Marche sur le modèle du lundi de Pentecôte. La porte-parole Aurore Berger l'a répété ce week-end dans le JDD. Mais c'est loin de faire l'unanimité dans la majorité. Un ministre averti, il faut se méfier des mesures qui ont été faites et qui ne marchent pas. L'autre piste, elle revient en boucle depuis plusieurs semaines, agitée par les ministres issus de la droite. Travailler plus longtemps, en clair, partir à la retraite plus tard. Emmanuel Macron s'était engagé à ne pas toucher à l'âge de départ, mais voilà, nécessité fait loi. La piste est à l'étude, un député aile gauche soupire. Si c'est ça la sortie du grand débat, on va se faire complètement défoncer.
Les précisions d'Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h05 et au Sri Lanka, au lendemain de la série d'attentats qui ont fait 290 morts et 500 blessés dans des églises et des hôtels, l'état d'urgence a été décrété aujourd'hui alors que l'on a appris ce soir que l'une des victimes est d'origine française. Sans plus de précision, on ne sait pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Aucune revendication pour l'instant, mais les autorités attribuent ces attentats à un groupe islamiste local peu connu, le NTJ, Pauline Jacquot.
Oui, un groupuscule quasi inconnu jusqu'à présent, seul fait marquant l'attaque de statues bouddhistes en décembre dernier. Le mouvement était malgré tout sous les radars de la police locale, alerte il y a 10 jours sur une possible attaque visant l'ambassade indienne et des églises de la minorité chrétienne. Le président sri-lankais l'a affirmé, il y a des terroristes internationaux derrière ces terroristes locaux. L'enquête va devoir déterminer dans quelle mesure ce groupuscule, le NTJ, a reçu de l'aide de l'étranger. Et les investigations se poursuivent sur le terrain avec de nouveaux éléments cet après-midi puisque la police a retrouvé 87 détonateurs dans une gare de bus de Colombo à mi-chemin entre les hôtels et l'une des églises ciblées par les assaillants. Toujours dans la capitale, une bombe a explosé dans une camionnette pendant une opération de déminage. Aujourd'hui, des agents du FBI et d'Interpol devaient se rendre au Sri Lanka pour aider la police locale dans ses investigations.
Les précisions de Pauline Jacquot et je vous le disais, un ou une Française figure donc parmi les victimes de ces attentats. Le Quai d'Orsay recommande à ses ressortissants sur place de limiter leurs déplacements jusqu'à la levée du couvre-feu. Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1. Alerte pollution, à tout de suite.
Europe 1. Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1. Il est 22h07 et l'air est donc irrespirable dans plusieurs régions de France depuis maintenant plus de 48 heures. Alerte rouge aux particules fines dans le Nord, le Pas-de-Calais notamment, ainsi qu'en Normandie, en Bretagne. Les autorités ont mis en place des mesures de limitation de vitesse et demandent aux personnes fragiles d'éviter en particulier de faire du sport. Écoutez Alain Laplanche, il est le président d'Airbraise, l'observatoire de la qualité de l'air en Bretagne.
Les masses d'air ne sont pas statiques, les masses d'air se déplacent et actuellement, comme on a eu une pollution dans les Hauts-de-France, comme on a eu une pollution en Normandie, il y a une partie, si vous voulez, du nuage de pollution qui arrive sur la Bretagne et qui donc longe les côtes bretonnes et qui donne des épisodes de pollution. Pour la journée d'aujourd'hui, nous avons levé les alertes, c'est-à-dire que le seuil moyen sur 24 heures des particules fines dans les 4 départements bretons aujourd'hui est redescendu en dessous de la limite réglementaire. Malheureusement, ce seuil de particules devrait être à nouveau dépassé demain dans les Côtes d'Armor et dans le Finistère. Donc on va réémettre un bulletin de dépassement normalement demain. Et en principe, si les données météo restent celles qu'on connaît aujourd'hui, l'épisode de pollution sera terminé demain soir.
Le président de l'Observatoire de la qualité de l'air en Bretagne avec Jean-Jacques Herry. Les avocats japonais de Carlos Ghosn espèrent une libération sous caution de leur client qui, vous le savez, a de nouveau été inculpé pour la 4e fois la nuit dernière, cette fois pour abus de confiance aggravé. Il est question de l'achat d'un yacht, d'investissement dans une société familiale, d'enrichissement personnel. Carlos Ghosn est soupçonné d'avoir détourné des fonds de Nissan, notamment pour investir dans la start-up de son fils. Nouvelle mise en examen, donc, malgré des éléments légers, selon son avocat, maître Jean-Yves Le Borgne.
Je crois qu'il faut être extrêmement prudent sur les raisons qui sont celles de la poursuite et qui est effectuée au Japon. Nous n'en savons rien. Il y a des fuites, il y a des bruits. Il n'y a pas de caractère public aux éléments de l'accusation. On sait déjà depuis longtemps qu'il y a eu des commissions qui ont été versées à des distributeurs Nissan et on parle de rétro-commissions, pour faire simple, qui auraient bénéficié à Carlos Ghosn. Mais la preuve, à ma connaissance, puisque ce dossier n'est pas partagé, n'est pas public, n'est pas connu, à ma connaissance, la preuve de ce profit personnel est très hypothétique.
Maître Jean-Yves Le Borgne, l'avocat français de Carlos Ghosn, joint pour Europe 1 par Anne-Laure Jumé. Pendant 20 ans, il a tourné en dérision la politique ukrainienne et le voilà désormais au pouvoir. Volodymyr Zelensky, élu hier haut la main avec 73% des suffrages en Ukraine face au président sortant Poroshenko. Mais pour lui, le plus dur commence. Il va devoir maintenant rassurer, donner des gages de crédibilité malgré son manque d'expérience en politique et être capable aussi de se positionner face à la Russie. Le nouveau président devra notamment gérer le conflit qui mine l'est du pays, ces séparatistes pro-russes qui font la loi dans la région du Donbass. Jean-Sébastien Sodlaïni, Zelensky peut-il faire le poids face au Kremlin ?
Eh bien, disons que pour l'instant, Volodymyr Zelensky a tout d'une proie facile pour Vladimir Poutine. Le nouveau président ukrainien a soigneusement évité les débats télévisés, les longues interviews à la presse et les journalistes en général. Sa campagne, il l'a faite par le biais de vidéos sur Internet ou bien à travers les réseaux sociaux. C'est pas franchement rassurant sur ses capacités de négociation face à un Vladimir Poutine souvent présenté comme étant intraitable. En tout cas, il semble afficher une certaine fermeté, notamment sur la libération de soldats ukrainiens prisonniers. C'est un dossier essentiel pour l'opinion, et c'est là-dessus qu'il entend jouer l'opinion en essayant de retourner la population du Donbass. Alexandra Goujon est spécialiste de l'Ukraine à l'Université de Bourgogne. Elle rappelle que Volodymyr Zelensky est avant tout un communicant et qu'à ce titre, eh bien, il a un plan.
Une idée qu'il a relancée à plusieurs reprises en disant pour récupérer ces territoires, il va falloir qu'on ait une autre politique de la communication, il va falloir que les journalistes expliquent. Et donc, il veut se lancer dans une opération, j'allais dire, d'information dans ces territoires pour pouvoir essayer de convaincre la population que le chemin de l'Ukraine, notamment le chemin vers l'Europe, vers plus de démocratie, est le bon chemin.
Alors Jean-Sébastien Soldaigny, on imagine que Poutine ne va pas se laisser faire. Comment perçoit-on Zelensky au Kremlin ?
Eh bien, il y a cette impression que les Russes ont misé sur lui parce que ça les arrangeait, je m'explique. Vladimir Poutine a savamment ignoré Petro Poroshenko durant la campagne. C'est le président sortant de l'Ukraine. Vladimir Poutine ne le prenait pas au téléphone. Du coup, il est apparu discrédité dans ce match Russie-Ukraine. Et le Kremlin ne fait rien au hasard. Il vaut mieux avoir un Zelensky plus facilement manipulable. C'est comme ça qu'il est perçu. D'ailleurs, les déclarations arrivant de Moscou ne montre pas beaucoup de considération pour lui. Voici la dernière. C'est trop tôt pour évoquer la possibilité d'un travail en commun.
Les explications de Jean-Sébastien Soldaigny, grand reporter à Europe 1. En Algérie, après l'appel du patron de l'armée à accélérer la cadence dans les enquêtes ouvertes pour corruption, quatre proches de l'ancien président Bouteflika ont été interpellés aujourd'hui. Aux États-Unis, la Cour suprême va se pencher sur les discriminations contre les gays et les personnes transgenres. Elle a retenu trois dossiers, celui du licenciement d'un employé de funérarium transgenre et celui de deux homosexuels. La Cour suprême devra répondre à une question simple qui fait l'objet d'un vif débat politique. Est-ce que la loi fédérale de 1964 qui interdit les discriminations sur la base du sexe s'applique aussi à l'orientation et à l'identité sexuelle ? Actuellement, en l'absence de directives claires, les tribunaux rendent des décisions souvent contradictoires. Les États-Unis qui intensifient leur pression sur l'Iran, leur ennemi numéro un au Moyen-Orient. À partir du 2 mai, Donald Trump promet de sanctionner tout pays qui continuera à acheter du pétrole iranien. Il espère ainsi priver le régime de sa principale source de revenus. Ça concerne la Chine, l'Inde, la Turquie, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l'Italie et la Grèce qui vont donc devoir cesser tout achat. Et cette mesure s'annonce particulièrement délicate pour l'Inde, allié stratégique des États-Unis et troisième importateur mondial de pétrole, dont environ un dixième des achats provient d'Iran. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris et les dons qui continuent d'affluer, dernier en date celui du gouvernement serbe. 1 million d'euros pour reconstruire au plus vite ce symbole de la civilisation française et du monde. Et puis le PSG a lui annoncé que les 1000 maillots floqués de l'image de la cathédrale Notre-Dame ont trouvé preneur en moins de 30 minutes. Le produit de la vente doit être reversé à des associations liées aux pompiers. À propos du PSG. L'OVNI Mbappé a encore frappé 3 buts hier soir qui ont permis à son équipe de battre Monaco et de valider enfin son titre de champion de France. Julien Froment, un match triple XL pour Mbappé. Non seulement il marque, mais il court très très vite.
Oui, il va vite, hein, trop vite pour la Ligue 1. D'ailleurs, hier soir, hein, sur son premier but, Kylian Mbappé a été flashé à 38 km/h. 3 réalisations totales donc contre Monaco. C'est 28, 29 et 30e en Ligue 1. Une première, hein, pour un attaquant français depuis Jean-Pierre Papin. C'était déjà il y a 29 ans. Kylian Mbappé n'est plus qu'à 6 réalisations du record absolu détenu par le joueur de Nantes Philippe Gondet. 36 buts lors de la saison 65-66. Mais au-delà de ses statistiques, des records, le champion du monde français est devenu incontournable. C'est lui qui a tenu la boutique au Paris Saint-Germain quand Neymar, Cavani ou Di Maria étaient blessés. Mbappé indispensable et surtout intransférable. En tout cas, lui ne veut pas quitter le PSG. Il l'a redit hier soir chez nos confrères de Canal+. Je m'inscris dans le projet et de rejeter toute idée d'aller rejoindre Zidane au Real Madrid. Il a ajouté, tant mieux pour le Real s'il y a Zizou, je les regarderai en tant qu'admirateur. Un message qui a dû rassurer sa direction et surtout les supporters parisiens qui n'ont Dieu que pour le nouveau prodige du football français.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morma. Alors c'est vrai qu'on a passé un beau week-end, mais il semble bien que l'on ait mangé notre pain blanc.
Eh bien oui, Isabelle, la belle vie allongée dans l'herbe sous soleil, c'est terminée. Le temps se gâte par le sud déjà aujourd'hui avec de vives rafales de vent en Méditerranée. Ça s'est calmé en fin d'après-midi. Rebelote demain avec des pluies soutenues en région PACA et en Corse. De la neige autour de 2000 mètres. Partout ailleurs, ce sera de plus en plus orageux. Des orages qui remontent de l'Aquitaine vers le nord. Seules les régions au nord de la Seine jusqu'en Alsace seront épargnées. Alors attention hein, quand même, les orages pourraient cogner fort sur le littoral aquitain demain après-midi avec des risques de grêle entre les Landes et la Gironde, pas bon du tout pour nos vignobles. Les températures, elles, bien après des records dans le sud-est ce matin, jusqu'à 19 quand même au lever du jour à Toulon, on aura une petite baisse à partir de demain après-midi, 16 degrés à Draguignan, 17 à Brest, à Carcassonne et Toulon, 19 à Dunkerque et Marseille, 20 degrés pour Biarritz et Toulouse, 21 à Bordeaux comme à Nantes, 23 à Lyon, 24 à Lille et plus chaud quand même sous le soleil de Strasbourg ou Paris avec 24 à 26 degrés. Alors la suite de la semaine, c'est pas bon du tout. Pluie soutenue et vent fort sur le sud-est mercredi, puis sur les régions de l'est jeudi. Orageux à l'ouest, retour progressif des éclaircies vendredi près de la Méditerranée et un défilé pluvieux océanique sur les régions du nord.
La météo signée, Elena Morna. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur général de Nexity, Frédéric Verdaven. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h17, comme tous les soirs sur Europe 1, on s'intéresse à la bourse et c'est le retour de Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Alors la séance a été plutôt calme à Wall Street aujourd'hui, alors que les marchés européens, on le rappelle, eux, sont restés fermés comme chaque lundi de Pâques.
Oui, pas beaucoup de mouvements avec Pâques. Le Dow Jones perd 0,18%, 26 511 points. Le Nasdaq, lui, résiste et gagne 0,22%. On est à 8 015 points. Alors une séance calme, car les marchés sont donc restés fermés à Paris, à Londres ou encore à Madrid. Et puis les investisseurs sont prudents avant une semaine très chargée à Wall Street. Ils attendent un déluge de résultats de sociétés dans les prochains jours. Des grands noms comme Facebook, Amazon, Microsoft ou encore Boeing doivent dévoiler leurs résultats financiers. On a tout de même un pétrole qui grimpe, plus 3% pour le brut léger américain qui vaut $65,86 le baril. Cette envolée, elle s'est explique par un nouveau coup d'éclat de Donald Trump. Le président américain veut réduire à zéro les exportations de pétrole iranien.
Ben oui, on en parlait tout à l'heure dans le journal, effectivement.
Voilà, actuellement, 8 pays comme la Chine, l'Inde ou la Turquie peuvent encore acheter donc du brut iranien malgré les sanctions contre Téhéran. Et bien donc, ce sera bientôt fini. Washington veut mettre fin à cette exemption. Ça fait monter les cours du brut et des poids lourds du secteur comme ExxonMobil ou Chevron.
Évidemment, le pétrole monte, mais de grandes valeurs baissent comme Boeing.
Oui, Boeing qui abandonne 1,3% après un article du New York Times, un article qui met en cause la qualité de la production de ces 787 Dreamliner. Les informations ont été démenties par l'avionneur, mais ça pèse tout de même sur le cours de bourse qui n'en a pas franchement besoin. Boeing a déjà beaucoup souffert ces dernières semaines, vous le savez, avec les difficultés d'un autre appareil, le 737 Max. Et puis Tesla plonge de près de 4% après la diffusion d'une vidéo plutôt inquiétante sur les réseaux sociaux chinois. Sur les images, on voit une des voitures de la marque Tesla, une Model S, en train d'exploser sur un parking de Shanghai.
Ah oui.
Alors, c'est pas terrible. Et le fabricant de voitures électriques enquête sur cette vidéo. On termine, Isabelle, avec les devises. L'euro est en petite hausse de 0,1%. Il s'échange contre 1,1260 $.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Claire Lemaître de Boursier.com. On vous dit à demain. Et à 22h20, c'est l'heure de l'invité Éco, Emmanuel Duteil. Vous recevez ce soir le directeur général de Nexity.
Bonsoir Frédéric Verdaven.
Bonsoir Emmanuel Duteil.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général délégué de Nexity. Nexity, c'est l'un des plus grands groupes dans le monde de l'immobilier en France. Vous êtes notamment en charge des métiers dits de service chez vous. Alors quand on parle de service, on parle notamment de syndic. Alors ça fait partie des professions qu'on aime bien détester, souvent les syndics. Hein. Certains disent injoignables, c'est pas facile d'avoir des devis clairs, etc. etc. Pourquoi déjà on vous aime pas trop les syndics? C'est de votre faute ou c'est de la nôtre?
Je pense qu'il y a des réalités et des idées perçues. Alors parmi les réalités, certes, il y a eu des syndics qui ont peut-être fait quelques abus. Je ne peux pas vous garantir que l'ensemble des gestionnaires de copropriété sont exemplaires. Mais par contre, on n'a pas l'exclusivité de ce genre de problème. Au fond, on n'est pas pire que certaines autres professions. Maintenant, les idées perçues. Les idées perçues, c'est d'ailleurs ce qui souvent génère une mauvaise image du syndic. C'est le syndic serait trop cher. Je pense qu'il faut juste remettre les choses en place. On gagne 195 euros du lot TTC par an.
De la copropriété ou de
non,
chaque...
Non, de l'appartement. On gère
C'est ramener au copropriétaire. Moi, mon appartement à Paris, vous gagnez 195 euros dessus.
Voilà. Donc 195 euros du lot, ça fait 16,25 euros par mois. C'est deux paquets de cigarettes.
Mais est-ce que vous voulez dire aussi que la qualité de service, parce que même si ça coûte pas très cher, à la rigueur, c'est quand même la qualité de service qui nous intéresse, ouais. Elle a peut-être eu de temps en temps des petits problèmes et elle est en amélioration.
En tout cas, on œuvre pour que ça s'améliore. Et pourquoi je vous parle du prix? Tout simplement parce que souvent, il y a un amalgame entre ce que coûtent les charges de la copropriété, où là, on est en gros à 1600 euros, voilà, si on prend l'ensemble des charges de copropriété, avec ce que coûte le syndic. Le coût du syndic, c'est entre 10 et 12% de ses charges. Donc là, je pense que on a un travail de pédagogie, on en reviendra peut-être après à faire pour expliquer ce qu'on fait.
Puisque même le gouvernement vous a quand même dit il faut plus de transparence, notamment au niveau des contrats, il faut aider les gens. Est-ce que là, vous allez être plus transparent?
Déjà, la loi nous oblige à être transparent. Et je pense que parmi les bonnes choses de la loi, notamment la loi Allure, il y a ce contrat forfaitaire qui permet aisément de comparer les contrats entre les uns par rapport aux autres. Ça, c'est pas un sujet. Donc, la loi Allure nous a aussi obligé à apporter plus d'informations et faciliter l'accès à l'information au travers des espaces privés clients. Tout ça, donc, tout ça existe. C'est pour ça que j'étais assez surpris, si vous voulez, du dernier entre guillemets bashing d'Edouard Philippe sur le sujet. On va plus loin que ce que la loi nous impose, puisqu'on a créé une lettre repère depuis 4 ans. Lettre repère, c'est simple. On met noir sur blanc ce que sont les coûts d'un syndic, les coûts d'une gestion locative. Et depuis 4 ans, on montre comment nos coûts et comment les charges évoluent. Il suffit de consulter ça, c'est accessible à tout le monde.
Vous êtes en charge de ce qu'on appelle les métiers de service. Ouais. Est-ce que le problème n'a pas été de temps en temps pour les syndics d'oublier justement qu'on n'est pas que dans une relation contractuelle, on est dans une relation de service?
Vous avez raison. Souvent, la mauvaise image du syndic, c'est simplement parce qu'il n'est pas accessible, parce qu'on ne le rencontre pas assez souvent, parce qu'on ne peut pas l'avoir au téléphone. Et donc à nous de faire en sorte, grâce notamment à la modernisation et grâce aux outils digitaux, de se redégager du temps qui permette de redonner la parole et l'échange avec le client.
Alors, ce qui est aussi très intéressant pour l'avenir, c'est le rôle qui va peut-être être le vôtre, notamment pour tout ce qu'on appelle la rénovation énergétique. Il y a un gros appel, et de la part des copropriétaires, mais également des pouvoirs publics, à dire il faut rénover, il faut mieux isoler. Vous êtes sûrement parmi les acteurs qui connaissent le mieux, finalement, l'état de l'immobilier en France. Vous vous êtes engagé à faire 30 copropriétés d'ici 2020. Ouais. Quand on est l'un des plus gros syndics de France, 30 copropriétés, c'est pas énorme quand même?
C'est pas énorme, mais je vais vous expliquer comment ça se passe quand même. C'est très long avant d'arriver à avoir l'accord d'une assemblée générale pour mettre en place des travaux de rénovation énergétique. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut une règle de majorité, d'accord ? La loi vient de changer ça, il faut une majorité d'ailleurs un peu plus complexe qu'une majorité simple. Ce qui est dommage, parce qu'au fond, on a 60% d'absentéisme aux assemblées générales. Donc ça veut dire que perpétuellement, on ne pourra jamais prendre de décision, premier élément. Ensuite, quelques chiffres. Il y a 10 millions de logements copropriétaires en France. Sur ces 10 millions, il y en a 6 millions qui ont été construits entre 45 et 75. Ça veut dire que, potentiellement, ce sont des passoires énergétiques. Si on ne fait rien, il y a un enjeu environnemental évident, mais aussi un enjeu de mal-logement à terme. Ça veut dire qu'on va créer de la précarité qui mènera, à un moment ou à un autre, à de l'insalubrité. Donc, il faut qu'on s'y mette. Donc, dans les propositions qu'on a faites, et ça, elles sont importantes, c'est assouplir les règles de gouvernance, je viens d'en parler. Deuxième élément, c'est de faire en sorte que on puisse faire du syndic, parce qu'on parlait du rôle du syndic, un véritable intermédiaire entre les collectivités et les clients. Ensuite, il y a un certain nombre de choses qui doivent être aussi beaucoup plus simplifiées, comme les contrats. On pourrait accompagner différemment chacune des copropriétés. Et dernier élément, il y a une bonne partie d'aides financières qui peuvent venir en aide, qu'elles soient individuelles d'ailleurs ou collectives, pour faire en sorte que on dégage le pouvoir d'achat nécessaire pour pouvoir faire ces travaux. On a un exemple à Montataire, où on a été chercher ce qu'on appelle du tiers financement. Le tiers financement, c'est une solution superbe, tout simplement parce que vous allez rembourser les travaux sur l'économie réalisée à terme. Donc au fond, il n'y a pas de sortie de cash. Et si vous gagnez 20 euros par mois de maîtrise de charge, bah ces 20 euros, ça va vous permettre de rembourser les travaux tels qu'ils ont été mis en place.
Malgré tout ce qu'on en est, est-ce qu'on doit avoir conscience de se dire que nos charges vont devoir progresser dans les années à venir en raison des normes pour la rénovation énergétique et qui va d'une certaine façon tous devoir participer à une sorte, peut-être, je ne sais pas comment on peut dire, mais d'effort national?
On peut le dire comme ça, on peut dire aussi que le métier de syndic, c'est de faire en sorte que les charges soient maîtrisées, c'est-à-dire qu'on peut aussi travailler à la maîtrise d'autres postes de charges, ce qu'on fait nous, notamment les assurances, un certain nombre de postes sur lesquels on peut avoir de l'optimisation, mais il est clair qu'à court terme, si on veut faire de la rénovation énergétique, il y aura une augmentation des charges. Mais pour un pour en fait une amélioration de la vie quotidienne, du mieux vivre ensemble.
Ça vous oblige là justement dans les AG que vous pouvez avoir de copropriétaires à expliquer ça, vous formez vos agents à dire il faut sensibiliser nos publics, il faut leur expliquer que demain si on prépare pas des sommes de côté dès aujourd'hui, sinon ça va coûter très cher.
C'est ce qu'on fait parce que tout simplement on a signé, vous avez fait mention tout à l'heure d'une charte qu'on a signée avec le plan bâtiment durable qui s'appelle le Green Deal, et dans cette charte on s'est certes engagé sur un nombre de rénovations en termes de copropriété, mais aussi engagé sur la formation de nos collaborateurs. Donc on a formé une centaine de collaborateurs sur la rénovation énergétique, une vingtaine qui sont vraiment des experts pour accompagner tout ça, parce que l'enjeu est là, et je reste convaincu d'ailleurs que ça va faire le pivot sur ce métier. On va passer du métier de comptable, tel qu'il est perçu, à un vrai métier, encore une fois, d'ensemblier, de chef d'orchestre, pour faciliter et répondre aux enjeux à la fois du mieux vivre ensemble et à la fois des enjeux de société. Mmh. Et je pense que le syndic, il est au cœur de tout ça. Et c'est ça que je voudrais aussi passer comme message. C'est que, au fond, au lieu de dire sans cesse le syndic, c'est quelqu'un qui gagne énormément bien sa vie, de manière occulte, il faut juste qu'on arrête ça et se dire, donnez-nous les moyens législatifs et réglementaires pour faire en sorte qu'on ait un peu plus de souplesse pour jouer ce rôle qui est juste majeur pour notre société.
Eh bien, merci en tout cas d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Frédéric Verdaven, le directeur général délégué de Nexity en charge des métiers de service, était notre invité. On se retrouve demain, 22h20.
À demain, évidemment. Merci à vous, Emmanuel Duteil. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. 22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet.
Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Sri Lanka, la tragédie de Pâques, titre le journal La Croix. À propos de ces attentats qui ont ciblé hier des églises et des hôtels, 290 morts. Je vous rappelle qu'on a appris ce soir qu'un Français faisait partie des victimes. À la une de La Croix, la photo d'une église dévastée par le souffle d'une bombe et des sauveteurs hébétés et impuissants. L'enfer sur terre, titre pour sa part Libération. Europe, le cavalier seul de Macron, écrit l'Opinion, faute d'allier, l'ambition européenne du président de la République est en panne, alors que l'attitude de Paris agace ses voisins. C'est ce qu'écrit Jean-Dominique Mercher. Emmanuel Macron découvre dans la douleur qu'il est difficile de construire l'Europe sans les Européens. En faisant cavalier seul, au nom d'une vision française de ce que devrait être l'Union européenne, le chef de l'État s'est isolé des pays partenaires de la France, l'Allemagne au premier chef, sans lesquels son projet initial de relance de la construction européenne n'a aucune chance d'aboutir. On précise que c'est demain que s'ouvre le dépôt des candidatures en France pour ces élections européennes. Dans le journal L'Alsace, Emmanuel Delahaye s'interroge. À l'Est, le renouveau, Ronald Reagan, Silvio Berlusconi, Beppe Grillo, Donald Trump, tous ces responsables politiques de premier plan sont d'abord devenus célèbres sur le petit ou le grand écran, comme cow-boy de série B, comique aigriard ou battleur de foire au sourire ultra bright au milieu de bimbo à moitié nu. Peu importe, une fois lancés en politique, tous ont sans vergogne agité les principales peurs du moment. De Reagan à Trump, les missiles soviétiques ont cédé la place aux migrants sud-américains. La peur est restée, le populisme et la démagogie ont prospéré. Depuis hier soir, on est tenté d'ajouter le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à ce petit club huppé. Sur le papier, l'affaire paraît entendue. On aurait tort cependant de classer définitivement le cas Zelensky dans la catégorie des bêtes de foire médiatico-populistes, pro-européens affichés, libéral assumé, soucieux de réconciliation nationale et de respect des minorités. Juif, non pratiquant, triomphalement élu dans un pays au lourd passé antisémite, Zelensky donne une image de l'Ukraine plus sympathique de celle habituellement véhiculée par la propagande russe. Laissons-lui donc le bénéfice du doute, d'autant qu'un mois après l'élection d'une femme progressiste et pro-européenne à la présidence de la Slovaquie, il apporte une raison supplémentaire d'espérer un renouveau politique à l'Est. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sophie Peters, évidemment, pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle.
Très bon début de semaine à vous après ce beau week-end.
Et très belle Pâques. J'en profite, nous sommes encore lundi.
Également. À tout à l'heure Sophie.